Bienvenue dans The Debate. Aujourd'hui, on parle des élections générales sud-africaines de mai 2019. Imaginez remporter la présidence de votre pays haut la main pour réaliser presque immédiatement que vos propres électeurs fuient discrètement par la porte de derrière.
Ouais, c'est le grand paradoxe de ce scrutin.
Exactement. Cyril Ramaphosa maintient le Congrès national africain, l'ANC, au pouvoir avec 57,5% des voix. Et ça, c'est malgré les coupures de courant massives d'ESCOM, le géant public de l'électricité qui est au bord de la faillite, et un chômage qui frôle les 27%. La question aujourd'hui, c'est de savoir si ce résultat lui offre un véritable mandat de réforme. Pour moi, je suis convaincu que c'est une victoire stratégique impitoyable, un mandat pragmatique qui lui donne l'autorité absolue pour nettoyer l'État.
Ah, je lis ces résultats sous un tout autre angle. Avec une chute historique sous la barre symbolique des 60% et une abstention massive, c'est pas une victoire. Je suis persuadée que c'est le chant du cygne, la signature du déclin irréversible du mouvement fondé par Mandela. Ce soi-disant mandat, c'est qu'un sursis illusoire.
Mais il faut vraiment mesurer le champ de ruines dont il a hérité pour comprendre ce succès. La capture de l'État sous la présidence de Jacob Zuma, c'était pas juste de la simple corruption.
Non, c'était un pillage en règle.
Un pillage systématique des institutions par des intérêts privés, oui. Pour démanteler ce réseau, Ramaphosa ne concourait pas vraiment contre l'opposition politique. En fait, il luttait pour sa survie contre son propre parti. En obtenant une majorité absolue sans avoir besoin d'alliés externes, il prive l'aile radicale de l'ANC, celle orchestrée par Ace Magashule, de tout pouvoir de chantage au Parlement. Ce score de 57,5%, c'est exactement le levier mécanique dont il avait besoin pour écraser la menace interne.
Et comprend l'argument, mais ce levier repose sur un mirage mathématique. Si on regarde sous la surface, la participation s'est effondrée à 66%.
C'est vrai, c'est une baisse.
C'est une baisse énorme. Et surtout, il y a près de 6 millions de jeunes Sud-Africains en âge de voter qui ne se sont même pas inscrits sur les listes électorales. L'ANC a tout de même perdu 19 sièges au Parlement. Quand votre base historique s'évapore à ce point, vous n'obtenez pas un mandat clair pour réformer, vous subissez une sanction silencieuse et féroce de la part de vos propres citoyens.
Ok, mais cette abstention, est-ce que c'est vraiment une sanction politique ciblée contre Ramaphosa Haï, ou c'est simplement l'apathie naturelle d'une génération post-apartheid qui n'a jamais connu la lutte armée de l'ANC ? Regardez l'effondrement de la principale force d'opposition, l'Alliance démocratique.
Le parti de Mousi Maman, ouais.
C'est ça. Il a vu son parti reculer à 20,7%. Sa stratégie pour séduire la classe moyenne noire sans froisser l'électorat blanc conservateur, elle a explosé en vol. Ça prouve bien que Ramaphosa a su capter le centre modéré. En fait, je le vois comme un chirurgien d'urgence.
Un chirurgien ?
Oui, il avait juste besoin que le patient, donc l'électorat, reste stable sur la table d'opération. Il ne cherchait pas un enthousiasme débordant, il cherchait l'immobilité institutionnelle pour pouvoir exciser la corruption. La victoire sur l'opposition, c'était presque une formalité.
Ah non, cette analogie ne tient pas la route du tout. Le problème, c'est que le patient n'est pas sagement anesthésié, il est carrément en train de fuir l'hôpital. L'électorat noir urbain s'abstient, oui, mais ceux qui restent et qui expriment leur colère ne le font pas en silence. Ils se radicalisent.
Vous parlez de l'extrême gauche.
Exactement. La véritable dynamique de ce scrutin, c'est pas la stabilité du centre, c'est la percée fulgurante des combattants pour la liberté économique. Le parti de Julius Malema dépasse les 10% et rafle 44 sièges. C'est énorme.
Je vous l'accorde, cette rhétorique radicale sur l'expropriation des terres sans compensation, ça séduit une jeunesse exclue du miracle économique, c'est un fait. On se retrouve avec un Parlement pris en étau entre cette extrême gauche en pleine expansion et une droite libérale en crise d'identité.
Tout à fait, le blocage est bien là.
Pourtant, ironiquement, ce blocage des extrêmes, ça valide la stratégie de Ramaphosa. En reconnaissant publiquement les erreurs de l'ère Zuma, il a évité que ses forces populistes ne pèsent dans une coalition. Il incarne le seul rempart crédible contre l'effondrement total du pays.
Il a évité le chaos immédiat d'un gouvernement minoritaire instable, ça je vous l'accorde. Mais enfin, un parti hégémonique qui passe de 279 sièges en 2004 à 230 aujourd'hui, c'est un parti qui se vide de sa substance. Je doute profondément de la viabilité à long terme de ce projet politique face à une population qui est structurellement épuisée par les promesses non tenues.
Ouais, nous nous accordons sur cette réalité mathématique. C'est une lente hémorragie électorale. Le simple maintien au pouvoir ne garantit pas la guérison économique et sociale de l'Afrique du Sud, c'est certain.
Absolument pas. Le maintien n'est pas la guérison.
La véritable question pour l'avenir de la démocratie post-apartheid sera de savoir si cette stabilité institutionnelle permettra de restaurer la confiance ou si le silence assourdissant de la jeunesse finira par gripper le système de l'intérieur. Il y a beaucoup à analyser sur ce sujet. Merci de nous avoir suivis.